de vous retrouver sur Graphite 94.9, mais pour Glissando, votre émission de musique classique, mais pas que. Eh bien, je vais vous dire, en repensant à la foire au fromage et au vin qui a eu lieu les 27 et 28 mai dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça à Compiègne, j'ai pensé à certains compositeurs qui étaient de fins gourmets, voire même de fiefés gourmands. Et cette fois, je vous emmène en Italie. Il faut dire qu'au XIXe siècle, les repas sont de véritables banquets où sont servis en moyenne une dizaine de plats. Des viandes, des abats cuisinés avec beaucoup de matières grasses, des sauces et des épices qui étaient d'ailleurs très souvent utilisées pour masquer le manque de fraîcheur des aliments. Heureusement qu'on ne fait plus ça à notre époque. C'est une cuisine donc très riche, peu digeste et toujours fortement arrosée. Et il y a un compositeur qui aimait très très bien cette cuisine. Il s'appelle Gioachino Rossini. Célèbre compositeur italien, né en 1792 et mort en 1868, ça vous donne un peu une idée de son époque. Et il ne pouvait imaginer un repas sans boire 6 grands crus de vins différents. Et il adorait le champagne. Alors bien sûr, il faut savoir que Rossini enfant avait été en pension chez un charcutier. Et plus tard, alors qu'il était célèbre, il s'est plaint à son biographe des fatigues des célébrités et envie les charcutiers, en lui disant le plus sérieusement du monde que c'était le métier qu'il aurait voulu faire, mais qu'il avait été mal orienté. Quand son œuvre « L'Italienne à Alger » est jouée à Venise en 1814, c'est un triomphe. Toute la ville rit alors des mésaventures cocasses du pauvre calife Papatacci, nom qui littéralement signifie « bouffe et tais-toi ». On prétend que Rossini aurait été l'élève du plus célèbre cuisinier de l'époque, Carême. Celui-ci était le maître queue des Rothschild et Rossini ne se rendait d'ailleurs jamais à leur table sans passer d'abord à l'office pour le saluer. Alors ce fameux Carême, hein, quand on dit qu'on fait Carême, c'est pas tout à fait ça. Marie-Antoine Carême, il était né en 1784 à Paris dans une famille pauvre. Et il est passé en quelques années de l'officine d'un gargotier au dîner d'apparat de l'Empire et de la Restauration, acquérant vite une grande renommée. Croyant fermement qu'une bonne cuisine peut prolonger la vie, cet homme talentueux, assoiffé de savoir et pugnace en plus, se met successivement au service de Bailly, pâtissier renommé de la rue Vivienne, puis de Talleyrand, puis de l'empereur de Russie, puis de la famille Rothschild. Créateur du vol-au-vent, c'est intéressant ça, moi j'adore les vol-au-vent, maître S-sauce et potage, il a posé les jalons de la cuisine moderne en brisant la lourdeur de celle de l'Ancien Régime. Vous voyez, franchement, je ne savais pas et j'étais très contente d'apprendre ce qu'on dit de Marie-Antoine Carême. Mais retrouvons tout de suite Rossini dans une de ses œuvres les plus connues, avec l'ouverture de Guillaume Tell. Après le triomphe de cet opéra, on dégusta aussi dans les intérieurs bourgeois des tartes à la Guillaume Tell. C'était une tarte avec une pomme en sucre transpercée d'une flèche. Et il y a même un pâté d'ailleurs qui lui fut dédié par le célèbre cuisinier des Rothschild, donc qui s'appelle Carême. Je vous propose tout de suite l'ouverture de Guillaume Tell.
Thank you.
c'était l'orchestre de Radio-Télé Luxembourg, l'orchestre symphonique bien entendu, qui vous proposait justement cette version de l'ouverture de Guillaume Tell de Gioachino Rossini. Lorsque Rossini vient à Paris pour la première fois en 1823, il s'attable avec le tout Paris. Et les repas succèdent aux repas. Le point culminant de tous ces banquets est bien sûr, c'est en son honneur, et ça se tient au Châtelet, au restaurant du Veau qui tête. Mais manger, 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 tout cela fait grossir. Il n'a que 29 ans quand l'écrivain Stendhal, grand admirateur et pourtant pourfendeur de Rossini, le décrit comme étant énorme et mangeant comme trois ogres. Il faut vous dire aussi que Rossini avait une très belle voix de baryton. Et il n'hésitait pas à chanter des extraits de ses plus grands succès dans les dîners en ville, parmi lesquels la célèbre cavatine de Figaro, l'argot al factorum du barbier de Séville. Côté gastronomie, la renommée universelle du barbier de Séville avait pris la forme à Paris de petits gâteaux ronds à la pâte feuilletée fourrée aux fruits, baptisés Figaro. Ça devait être bon. Eh bien, alors je vous invite justement à écouter la cavatine de Figaro, qui est interprétée par l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par André Georgi.
Figaro, 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 Figa figaro. Sonne quoi? Hey, figaro. Sonne quoi? Figaro quoi? Figaro là, figaro quoi? Figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Quanto moltissimo sono i fuggi di sole qua, tutta la città, la città, la la città, la la città, la la città, la la città. Babadon figaro, babadon bravissimo, babadon figaro, babadon bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, la 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 la, fortunatissimo, 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 per verità, sono infaccato nella città, sono infaccato nella città, nella città, nella città.
Vous voyez que c'est un chant tout à fait virtuose qui était interprété par Philippe Dumigny et donc l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et donc pour cette œuvre du Barbier de Séville, un extrait du Barbier de Séville, donc de notre Italien Rossini. À partir de 1850, Rossini a définitivement quitté Bologne et il s'installe à Florence. Sa correspondance ne traite alors plus que de cuisine. Il ne parvient plus à fuir la maladie et n'est plus qu'un hypochondriaque victime de ses nerfs. Sa femme s'inquiète et le ramène à Paris, où il était déjà venu se faire soigner avec quelques succès quelques années auparavant. Et en 1855, un miracle se produit à Paris. Grâce à une bonne hygiène de vie, il y retrouve la santé et l'inspiration. Le tout Paris vient à lui, donnant naissance à ces fameux samedis musicaux, où se mêlent tout de même art culinaire et dégustation de musique. Alors je voulais quand même vous faire écouter l'ouverture du Barbier de Séville, parce que c'est tellement une musique tellement pétillante, gaie. Et je vous livre quand même une citation de Rossini, qui donc passait plus de temps dans les cuisines de ses demeures qu'à composer dans sa chambre ou dans son bureau. Ce que l'amour est au cœur, l'appétit est à l'estomac. L'estomac est le maître de la musique qui freine ou éperonne le grand orchestre des passions. Manger et aimer, chanter et digérer sont les quatre actes de l'opéra bouffe qui a pour titre la vie. Celui qui la laisse s'enfuir sans en profiter n'est qu'un fou. Eh bien, retrouvons le Barbier de Séville, l'ouverture. Eh bien, si vous n'étiez pas réveillé ou pas en forme ce matin, là, je pense que ça y est. Avec une musique aussi pétillante, vive que celle, justement, eh bien, de notre compositeur Gioacchino Rossini, là, vous êtes en pleine forme. Eh bien, on va quitter Rossini pour aller à la rencontre d'un autre compositeur italien qui s'appelle Giuseppe Verdi. Il est né en 1813 et il est mort en 1901. Donc, vous voyez, il est arrivé après Rossini, je puis dire. Eh bien, lui aussi était amateur de bonne chère. Il a grandi au village de Roncol, qui est de près de Busseto, où ses parents tenaient une osteria. Une osteria, c'est un modeste café-auberge, si vous voulez. Et ils avaient aussi une épicerie. Il était donc familiarisé dès l'enfance avec tout ce qui était produits alimentaires. Mais Verdi était avant tout un homme de la campagne, un contadino, quelqu'un de très simple, voire de frustre, qui se définissait d'ailleurs lui-même comme un ours. Il avait horreur des mondanités et des réceptions. À 34 ans, il s'est retiré dans sa villa Santa Gata, une demeure perdue dans l'austère plaine du Pô, où il vivra comme un propriétaire terrien ou un fermier avec sa femme Giuseppa. Lorsqu'il est devenu un compositeur de renommée mondiale, ses goûts se sont raffinés, mais ils sont toujours restés modestes. Après le succès triomphal de Nabucco, c'est le troisième opéra qu'il avait écrit, qui parle de la foi et du courage du peuple hébreu opprimé. Cet opéra est d'ailleurs son premier succès populaire. Du coup, les pâtisseries proposent des feuilletés Verdi. Et des cuisiniers inventent même la salsa à la Verdi avec du jambon de Parme en hommage à sa province d'origine. Cette œuvre, Nabucco, avait été ressentie par le public comme l'expression de leurs propres conditions et Verdi va devenir le barde du Risorgimento, c'est-à-dire de la lutte visant à unifier l'Italie et à la libérer de la domination autrichienne. Eh bien, nous allons écouter l'ouverture de Nabucco avec les chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Berlin.
Thank you.
Eh bien, pour ceux qui viendraient juste de prendre l'antenne de Graphite, je vous rappelle, c'est 94.9, et puis vous écoutez Glissando, eh bien, c'était l'ouverture de Nabucco. Alors, on parle aujourd'hui musique et gastronomie. Alors, pour Verdi, manger a toujours signifié apaisement, retour à la raison, à soi-même. Pour lui, c'est un symbole d'affection. Les repas de midi et du soir sont de longues cérémonies dédiées au plaisir où on ne parle jamais affaire. Toute sa vie, Verdi restait très attaché et attentif à sa chère, Giuseppina. Ils s'appelaient mutuellement pasticcio, petit pâté. Pourquoi pas ? Après le grand succès de son Rigoletto, autre opéra, Giuseppe Verdi accepte en 1852 une nouvelle commande de la part du théâtre de la Fenice de Venise, sans pour avoir une quelconque idée d'intrigue, de livret. Et c'est au cours d'un séjour à Paris qu'il trouve finalement un sujet qui convient tout à fait pour son nouvel opéra, en assistant à une représentation de la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas-fils. Eh bien, son opéra, ce sera la Traviata. Et je vous propose maintenant le prélude de la Traviata avec l'Orchestre symphonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Thank you. le prélude de la Traviata, eh bien on a l'impression qu'on est parti sur la pointe des pieds. Alors nous parlons maintenant de Giuseppe Verdi, et alors justement à Gênes, le fournisseur officiel de Verdi lui livre chaque matin pour le petit déjeuner une brioche fourrée à la confiture qu'il a nommée Falstaff. Falstaff, en fait, c'est un opéra bouffe en trois actes, qu'a composé bien sûr Verdi, sur un livret d'Arrigo Boito, tiré des Joyeuses Commères de Windsor, et sous son dernier opéra, alors qu'il était âgé de 80 ans. Le compositeur avait remercié ce livreur en lui disant que son Falstaff était meilleur que le sien. Oui, il avait de l'humour, ce Verdi. Les opéras de Verdi privilégient avant tout l'action. Le lever de rideau devait s'effectuer dans les plus brefs délais. Ces ouvertures sont appelées sinfonia. Alors je vais vous faire découvrir une ouverture moins connue de son opéra Oberto, Conte di San Bonifacio. J'avoue que je ne connaissais pas moi-même cet opéra, composé durant l'hiver 1837-38. Oberto, c'est donc un opéra en deux actes. Les répétitions commencent à la Scala de Milan au printemps. Verdi a 26 ans à l'époque. Mais après la défection des solistes initialement prévue, l'opéra est créé à la Scala de Milan seulement en novembre 1839. Dans les solistes qui étaient prévus, il y avait une certaine, justement, Giuseppina Strepponi. Et c'était, en fait, elle est devenue, je dirais, la seconde épouse de Verdi. C'était une célèbre soprano. C'était une fille du compositeur Feliciano. Elle avait étudié le piano et le chant au conservatoire de Milan. Et en 1834, elle a commencé une brillante carrière de cantatrice en Italie et à Vienne. Giuseppina a probablement rencontré Verdi au printemps 1839 à l'occasion de la tentative ratée justement de mettre en scène Oberto, Conte di San Bonifacio, en raison de l'indisponibilité du ténor Napoleone Moriani. Une relation plus assidue entre le soprano et Verdi s'est alors établie lors de la mise en scène de Nabucco. Eh bien, je vous propose l'ouverture justement de Oberto. C'est cette fois l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, qui va vous interpréter cette sinfonia. Voyez, c'était donc un extrait de Oberto, donc un opéra aussi, de Verdi, que je ne connaissais pas, que je voulais vous faire découvrir aussi. C'était donc l'ouverture, ou Sinfonia, comme disait lui-même Verdi pour ses ouvertures. J'espère que cette émission du jour vous aura plu. On va déjà bientôt se quitter, mais on a encore une petite œuvre, je pense, à vous faire écouter. Alors, voyez, on connaissait ou pas, mais on a découvert, sinon, Rossini et Verdi en tant que compositeurs. On les connaissait moins en tant qu'hommes, et on a vu que, eux aussi, c'était des bons vivants, des amoureux de la vie et des bonnes choses. Et puis, après tout, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Alors on va quand même écouter encore du Verdi. Je vous propose cette fois la danse des Bohémiennes de la Traviata. Et c'est l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Riccardo Muti. Voilà. Et puis, si le temps s'écoule vite, je vous dis déjà au revoir. Je vous espère la semaine prochaine, où je vous emmènerai de nouveau bien loin de l'Italie. Alors, à très vite.